Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le premier vice-président de l'Union calédonienne, Gilbert Thuénon, qui est aussi membre du gouvernement en charge notamment des affaires minières, ce qui fait au moins deux bonnes raisons de le recevoir. Gilbert Thuénon, bonjour.
Bonjour Elisabeth, et puis bonjour à vos auditeurs.
Merci d'avoir répondu à cette invitation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets à voir avec vous. On va commencer par l'actualité immédiate. L'UC a annoncé mercredi sa décision de suspendre ses discussions avec les loyalistes et le Rassemblement. Alors pourquoi ? Parce qu'on vous fait le reproche de quitter régulièrement la table des négociations.
Vous savez, Elisabeth, et puis ça, il faut qu'on soit clair avec les Calédoniens. Quand les responsables politiques discutent, il faut que ces discussions se déroulent dans le respect mutuel. Et surtout pas dans le mépris et dans le dédain. Or, le dernier communiqué des loyalistes et du Rassemblement est à la limite une insulte à l'Union calédonienne. On nous accuse d'abord d'avoir mis à sac le centre-ville de Nouméa. Je veux dire, faut pas exagérer.
C'est pour dénoncer les violences de la CAT.
Il y a eu quelques échauffourées avec les gendarmes. Ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu saccage de la ville de Nouméa. Donc on ne peut pas continuer à mentir aux Calédoniens. On ne peut pas continuer comme ça. Donc nous, quand on dit qu'on va arrêter les discussions, on dit qu'on va arrêter les discussions avec les loyalistes et avec le Rassemblement. Pour autant, notre démarche qui consistait à dire qu'il faut ouvrir les espaces de discussion avec l'ensemble des Calédoniens, cette logique-là, elle se poursuit. Nous allons poursuivre les discussions avec ceux qui veulent bien discuter, mais discuter dans le respect mutuel, discuter dans la tolérance et discuter surtout dans la tempérance.
Mais ça s'était mal fini aussi avec Calédonie Ensemble, quand ils avaient notamment publié les conclusions de vos discussions. Là aussi, vous aviez dénoncé le manque de respect. Vous allez reprendre avec eux ou...
C'est ce qu'on avait dénoncé. Mais de la part du parti Calédonie Ensemble, on n'a pas senti du mépris. On n'a pas senti ce dédain-là, voire ces insultes-là. Parce que dans le même communiqué que sort les loyalistes de l'Europe Rassemblement, ils accusent le FLNKS d'avoir organisé la difficulté de nos trois usines. Non mais on rêve là. Jusqu'où on va pousser cette exagération-là? Je sais bien qu'il y a des élections qui arrivent. Je sais bien que c'est difficile dans les camps politiques en ce moment dans notre pays. Mais c'est pas une raison de pousser le bouchon aussi loin. Faire du populisme, ça a des limites. Et c'est ce que dénonce l'Union calédonienne et c'est ce que nous acceptons pas en ce moment.
Alors pendant des mois, l'UC et les indépendantistes ne voulaient parler qu'en bilatéral avec l'État. Après, vous avez dit on ne parle plus qu'en bilatéral avec nos partenaires calédoniens. En fait, vous allez parler avec qui demain ?
Non, nous sommes dans une démarche qui consiste à dire l'accord de Nouméa nous a mené jusqu'au stade que l'on connaît. L'accord de Nouméa, on l'a toujours dit, c'est le scellement du deal entre les Calédoniens aujourd'hui. Et l'accord de Nouméa, elle pose les principes comment aller plus loin. Or, on a besoin de discuter pour ça, pour se caler. Mais on ne peut pas discuter en dehors de ça. Et ce qui consiste à dire que c'est avec l'ensemble des partenaires de l'accord de Nouméa qu'il faut discuter. C'est ce qu'on a fait. Avec chacun, on a avancé, on est arrivé à un stade. Avec l'État, nous sommes arrivés à un stade. On a fait le bilan de ça. Avec les uns et les autres, nous avançons, on fait le point. Nous allons avoir un congrès FLNKS le 23 mars prochain. Nous ferons le bilan devant les militants de toutes ces discussions qui ont eu lieu. Qu'est-ce que ça a donné sur le plan formel comme comme dans le fond. Nous, on va indiquer de manière très claire comment ça se passait, les discussions avec les loyalistes et le Rassemblement. Y compris les mensonges qui viennent d'avoir lieu. On va faire le point avec les discussions avec Darmanin. Parce qu'on a senti quelque part ce même mépris-là qu'on a eu avec Darmanin. Et donc, on fera le point et on avisera comment on poursuit les choses.
Et mais je le répète, pour
qu'il n'y ait pas d'amalgame, pour qu'il n'y ait pas d'interrogation de la part... Nous, on a toujours dit, nous allons faire l'effort de poursuivre les discussions jusqu'au bout, coûte que coûte. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser marcher sur les pieds, quoi. qu'on va se faire écraser les orteils, qu'on va se faire insulter. Donc, nous arrêtons les discussions, en suspendant les discussions avec, les loyalistes et le Rassemblement. Pour autant, il y a d'autres responsables politiques non indépendantistes de ce pays. Vous parlez de Calédonie ensemble, bien sûr qu'on n'a pas apprécié ce qui s'est passé. Mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'on va pas continuer à reparler avec eux.
Il y a d'autres personnalités ou d'autres...
Oui, on va le faire avec l'éveil océanien, on va le faire avec le nouveau sénateur. Voilà, donc, parce que l'échiquier politique calédonien, il n'y a pas raison de privilégier de notre part, à nous, à l'UC. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison de privilégier certains au détriment des autres. Et on parle là de l'espace politique. Mais il y a aussi les autres organisations avec qui il faut parler. Nous, on a toujours parlé avec les églises, par exemple. Et là, je pense qu'il va falloir que, à ce niveau-là, nous essayons aussi d'avoir des échanges, parce que ça a été comme ça. Le pays, on est rentré dans cette période de paix en 1989, à cause de cette discussion qui s'était élargie. Je vous rappelle la composition de la mission du dialogue à l'époque. Hein. Il y avait les politiques, c'est vrai, mais il y avait aussi les églises et puis les grandes courants de pensée.
Après les accords, que ce soit l'accord de Matignon ou l'accord de Nouméa, il est signé entre formations politiques représentatives. Donc au bout d'un moment, il faudra bien que vous ayez un interlocuteur identifié.
Oui, tout à fait.
Et ça sera décidé éventuellement après le congrès
le 23 mars, on fera le bilan de toute cette séquence de discussions depuis le dernier congrès de Lanzata et on avisera comment on avance.
Voilà. Alors vous en voulez notamment au loyer ce rassemblement d'avoir porté plainte contre la CAT et le communiqué qu'ils ont publié. Mais sur le fond, vous n'approuvez pas les débordements qui ont eu lieu dans le centre-ville, comme les cinq gendarmes blessés quand même.
Oui, bien sûr, c'est ce que le communiqué qui est sorti, on l'a bien précisé ça. Et pour autant, on n'accepte pas la manière dont le communiqué a été produit, quoi. Voilà.
Alors ces manifestations cette mobilisation de la cellule de coordination des actions de terrain étaient motivées par la présence de Gérald Darmanin et votre refus de la révision constitutionnelle. Pourtant, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer avait été clair, il avait prévenu, s'il n'y avait pas d'accord, et on y revient au 31 décembre, il lançait le processus de la révision. Pourquoi est-ce que cet accord n'a pas été possible? Est-ce que, si justement vous aviez abouti les discussions, vous auriez évité tout ce processus parlementaire?
Vous savez, depuis le début, l'Union calédonienne en particulier dénonce l'impartialité de l'État. Et nous n'avons pas souhaité rencontrer Darmanin, parce que de ce point de vue-là, on n'a jamais eu d'explication, on n'a jamais eu de retour. Et la visite de Darmanin a été une preuve éclatante de cette impartialité.
De cette partialité.
Qu'est-ce qu'il est venu faire? On se pose encore la question. À part venir faire la promotion de responsables politiques qui émargent à Renaissance en France, on est venu promouvoir, par exemple, les contrats de développement. Mais les contrats de développement avec l'État, ça date bien avant Darmanin. C'est depuis les accords, ça. C'est normal, ça s'est toujours passé comme ça. Est-ce qu'il avait besoin de venir signer le contrat de développement avec la province sud, tout ce qui s'est passé autour de ça? Pareil, sur la question de sa visite soi-disant agricole à la fois. Mais la prime d'installation à l'agriculture pour les jeunes agriculteurs, elle existe depuis 1992. Moi, j'étais moi-même à la direction des affaires foncières et de l'agriculture de l'État, on avait déjà ça, 1996. Et donc, on vient faire la promotion autour de ces petits copains sur des dispositifs qui existent depuis des années. Et donc, c'est une preuve, encore une fois, de cette partialité de l'État, où on soutient une partie de la classe politique locale au détriment des autres. Donc, je dirais, les ministres, leur rôle essentiel, c'est l'intérêt général du peuple, c'est l'intérêt général de la Calédonie. Mais surtout en ces temps de discussion. Je ne dirais pas si nous étions mais la Calédonie, c'est reconnu par tous. Nous sommes dans un cheminement particulier dans l'histoire de la France. Mais pourquoi ce comportement qui privilégie les uns au détriment des autres. Et surtout, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une absolue similitude de discours, entre l'État et certains responsables politiques ici. Donc la collusion, elle est là.
C'est pas complètement vrai.
Comment voulez-vous que l'on discute avec des gens qui ne nous respectent pas et surtout qui se font la promotion les uns des autres, quoi.
Sur le fond, en fait, le vrai reproche que vous faites à Gérald Darmanin, c'est d'avoir lancé la révision constitutionnelle pour l'ouverture du corps électoral. Sur ce point, par exemple, les loyers et le rassemblement demandaient 3 ans de présence seulement pour pouvoir voter, c'est 10 ans. Donc, ils ne sont pas d'accord sur tout, quand même. Et vous en êtes tous sur le corps électoral, parce qu'on n'y comprend plus rien, en fait. Hein. L'UNI a accepté l'ouverture. Vous acceptez uniquement d'intégrer les natifs.
Oui.
Mais Gérald Darmanin dit que vous avez dit pas moins de 10 ans. Quelle est votre position? Vous savez bien qu'il va falloir le réouvrir jour, ce corps électoral.
Vous savez, il y a quelqu'un qui ment dans l'affaire.
Qui?
Ouais, quelqu'un qui ment dans l'affaire. Le ministre, il a annoncé au Sénat, quand nous avons signé un document, le sénateur Robert Rouy, ça fait 3 fois qu'il demande à M. Darmanin de lui donner ce courrier signé par le responsable indépendantiste. 3 fois. On ne l'a toujours pas. Donc, on ne sait pas de quoi il parle. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on a donné notre accord pour l'étude, pour savoir qu'est-ce que ça implique, ça. C'est le travail que nous avons fait avec les représentants de l'État ici, et notamment avec Rémi Bastille, très concrètement. Des réunions de travail qui ont lieu au commissariat. Mais à aucun moment, on a dit, bingo, on y va. On a seulement fait le constat des choses. La position que nous avons prise, c'est de dire, c'est normal qu'on intègre les natifs. Parce qu'il y a des Calédoniens là-dedans. On s'est arrêté là. Et c'est le message qu'on avons annoncé.
Et vous refusez toute ouverture aux autres, aux personnes qui sont durablement installées en Nouvelle-Calédonie, à ceux qui sont là depuis plus de 10 ans, qui paient leurs impôts, dont les enfants sont nés en Calédonie?
Mais on l'a toujours dit, ça. Nous sommes dans un cheminement particulier. À l'issue de ce cheminement particulier, on verra comment les choses s'organisent. Mais c'est d'abord aux Calédoniens de se prononcer eux-mêmes sur leur propre avenir. Nous, on ne va pas s'occuper des Bretons, nous. On ne va pas s'occuper des Corses. On ne va pas s'occuper des départements de Loire-et-Cher ou je ne sais pas. La question, c'est que nous, on dit, c'est aux Calédoniens de se prononcer sur leur propre destinée. Les autres, ils sont là par des volontés qui sont les leurs. Nous, on ne connaît pas les motifs d'arrivée des gens ici. Nous, ce que l'on dit, c'est aux Calédoniens et aux seuls Calédoniens, ceux qui sont durablement installés et qu'on a pris en compte pendant les différentes signatures des accords, c'est-à-dire les accords de Nouméa, mais surtout l'accord de Matignon-Oudinot. Et bien avant ça, celui qui s'est tenu à Alainville-le-Roche. Le cheminement, il est clair.
Donc malgré le travail que vous avez fait avec Rémi Bastille, vous disiez de voir les résultats d'une ouverture éventuelle du corps électoral, vous êtes toujours opposé à toute ouverture.
Mais
mis à part les natifs,
je ne sais pas. Mettons-nous dans l'autre situation. Quel responsable français va accepter qu'on inscrit d'un coup et d'un seul des milliers de personnes sur la liste électorale de son département, par exemple? Ça ne se fait pas en France, ça. Pourquoi ça se ferait chez nous? Sauf à vouloir noyer la citoyenneté calédonienne. Et nous sommes les défenseurs de cette citoyenneté calédonienne. Et on l'a toujours dit.
Bon,
elle sert à quoi? Elle sert à privilégier la destinée des enfants du pays. Les emplois ici, le travail ici, les formations, ainsi de suite. Parce que c'est comme ça qu'on a positionné les choses.
Les gens qui sont là depuis 25 ans en Nouvelle-Calédonie, ils ont quand même montré qu'ils étaient attachés au territoire.
Vous savez, Elisabeth, je pense que le problème, c'est que sur la seule question du corps électoral, on l'a toujours dit, il y a deux choses qui s'accompagnent. Le corps électoral, c'est elle qui détermine la citoyenneté des Calédoniens. Et on n'a pas fait ce travail. Nous avons réclamé, à l'issue de la signature de l'accord de Nouméa, par exemple, la mise en place du code de citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, qui disait, mais c'est quoi les obligations, c'est quoi les devoirs des Calédoniens par rapport au statut particulier que nous avons. Ça, on n'a pas eu. Donc les difficultés sont là. Mais nous on n'a pas changé. Je veux dire, on n'a pas changé sur cette question-là, depuis.
En attendant, le Sénat a adopté le report des élections provinciales au plus tard au 15 décembre.
Ben oui.
Le calendrier parlementaire est confirmé par Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la révision constitutionnelle, maintenant, elle est imminente, pratiquement, c'est dans quelques semaines. Hein.
Vous savez, pompeusement, les ministres successifs, quand ils sont arrivés ici, ils nous ont dit une grande démocratie, ça tient les délais et ça organise les élections en temps et en heure. Le premier constat, c'est qu'ils sont plantés. Pourquoi ils se sont plantés? Ils se sont plantés parce que la décision, ils le prennent toujours de manière unilatérale. La seule façon d'avancer en Nouvelle-Calédonie, on le redit, c'est le consensus. Et nous, on l'a dit depuis le début. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas un petit accord ici et puis un autre accord à droite. Voilà. Nous, c'est un accord global. Cet accord global, c'est l'accord sur l'avenir politique du pays. Et on le dit aussi. Pourquoi signer un accord sur l'avenir du pays? Comment prétendre signer un accord sur l'avenir du pays si on ne règle pas la situation qui est la nôtre aujourd'hui, la situation difficile du pays? Cette situation, on l'hérite du passé. Le gouvernement Mapo, aujourd'hui, on s'acharne à essayer de régler des dossiers anciens, des dossiers qui datent de 2012, 2016. Voilà. La question des Nerkal, je m'excuse.
Enfin, à une époque, à une époque où vous étiez aussi associé au pouvoir, vous avez toujours été membre du gouvernement, donc vous étiez au courant de ces problèmes. Pas vous individuellement,
mais
indépendantistes étaient dans le gouvernement collégial.
Mais la réforme des dispositifs du pays, on le réclame depuis belle lurette. Je veux dire, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on a mis en place une commission spéciale sur la fiscalité en 2012. Cette commission spéciale a succédé à celle qui a eu lieu en 96. Je peux vous raconter l'histoire aussi sur tout ça.
On ne va pas avoir le temps.
Non, oui, mais voilà. Donc, nous, on dit, d'accord, il y a des décisions qui ont été prises, des décisions malheureuses pour le pays. Il y a d'autres choses qui n'ont pas fait l'objet de décisions. Des indécisions qui nous amènent à la situation aujourd'hui. Faisons en sorte qu'on avance ensemble, quoi. Un exemple pour faire comprendre les choses à vos auditeurs. La taxe générale sur la consommation, la TGC, mise en place en 2018. Un an avant les élections de 2019. On a fait quoi? On a dit on va supprimer 6 taxes et on va mettre la taxe générale à la consommation. En disant ça va rapporter le même montant, 51 milliards. Sauf que l'année d'exercice pleine de la TGC, c'est-à-dire 2019, on a eu 49 malheureux milliards. Il manquait 8 milliards. L'année dernière, le rendement de la TGC 2023, c'est 45 milliards. Faites la comparaison. Rien n'a changé.
Mais vous êtes en charge de la fiscalité. Vous n'avez pas réussi à faire modifier le taux de la TGC?
J'ai fait 6 réunions de collégialité pour démontrer qu'il faut simplifier ce dispositif-là. Abandonner l'objectif de rendement, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on ne peut pas demander plus aux Calédoniens. Mais il faut simplifier, il faut réformer ce dispositif-là. Mais voilà, il nous manque depuis 2019, 8 milliards sur les impôts indirects. Ce n'est pas l'Union Calédonienne, ce n'est pas le PALICA qui a mis en place la TGC, je m'excuse. Et on dit, allons-y ensemble maintenant.
On va reparler économie parce que
il faut réparer les dégâts qui ont été commis.
Vous savez qu'il y a des prises de position aujourd'hui sur le domaine économique, mais pour en terminer un peu avec le côté parlementaire institutionnel, si la réforme constitutionnelle poursuit son chemin comme l'annonce Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas les moyens de vous y opposer.
Mais déjà, il va falloir qu'il obtienne la majorité au Parlement.
Absolument.
Hein, le congrès de Versailles, c'est 3/5.
Oui.
Et il me semble qu'il s'est déjà cassé les dents sur un précédent dossier. Là. Je crois que c'était sur quoi déjà? C'était sur l'immigration, je crois. Je pense que les députés et les sénateurs vont quand même l'attendre s'il n'y a pas de consensus. C'est la première réponse que je dois donner. Il ne faut pas, tirer des plans sur la comète, quoi. Voilà. Et puis, nous continuons d'agir. Hein. On va continuer à sensibiliser les sénateurs, on va continuer à sensibiliser les députés en France, et puis faire le tour des responsables politiques français, parce qu'on va les appeler à la clairvoyance, à la raison, pour leur dire que le combat électoral, on l'a toujours dit, c'est sacré pour nous, quoi. Et faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à ça.
Bon, en attendant, vous le disiez vous-même, toutes ces discussions politiques, ces recherches d'un accord ou d'une solution institutionnelle se déroulent sur fond de crise de la filière nickel. Une crise vraiment grave cette fois-ci. Tout le monde dit qu'on ne l'a pratiquement jamais vue avec les 3 usines qui sont menacées aujourd'hui. on attend la signature du pacte nickel proposé par Bruno Le Maire. C'était fin janvier, fin février. Maintenant, on l'annonce pour le 25 mars. On en est où et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce pacte nickel? Est-ce que vous êtes favorable à sa signature?
De manière très claire, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président Mapou et moi-même qui sommes en charge du dossier nickel, on s'est impliqué de manière très... très, très, très fort dans les discussions qui ont eu lieu avec l'équipe de M. Le Maire qui est venu. Toutes les réunions qui ont eu lieu pour préparer ce pacte nickel, nous étions présents et on a apporté tout ce qu'il fallait là-dedans. Aujourd'hui, le dossier tel qu'il avait été préparé au départ, il y a quelques ajustements à faire. Par exemple, le pacte nickel consistait à aider les trois usines. Vous savez que KNS, par exemple, a pris une autre voie. Et le ministre a annoncé une aide à Premier Ressources et une aide à la SLN. Donc c'est tout ça que nous sommes en train d'ajuster et nous allons poursuivre les discussions avec les équipes ministérielles de Paris pour ajuster les choses, puis y arriver. Mais l'objectif est effectivement... qui n'est pas de mal, qui n'est pas de, comment dire ça, c'est clair pour nous, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à signer quelque chose pour qu'on offre les possibilités de sauvegarde de la métallurgie en Nouvelle-Calédonie.
Même en autorisant les exportations, en permettant l'accès à la ressource, notamment pour la SLN.
Tout le pacte nickel est assez clair, c'est que on a mis de manière très claire le rôle de l'État, ce que doivent faire les collectivités calédoniennes, ce que devaient faire les actionnaires, y compris les entités métallurgiques ici, quoi. Donc la question de l'exportation et notamment de l'ouverture des réserves géographiques Koniambo, Thiébaghi et Prony. Et Goro, pardon, est dans le pacte. Oui, effectivement. On est allé jusque dans ces détails techniques et ces détails qui sur les conditions d'un retour à bonne fortune de ces trois usines.
Et l'ensemble des responsables politiques indépendantistes, quel que soit leur parti, sont d'accord avec ces dispositions?
On était en tout cas autour de la table et on a validé ensemble, même s'il y a des réserves, hein, parce que chacun aura... Par exemple, le gouvernement, son rôle, c'est d'autoriser les exportations. Voilà, donner les quantités, les teneurs, tous ces aspects au niveau des exportations. Charge aux provinces de regarder sur les autorisations d'accès à la ressource, sur les permis.
Surtout la province Nord qui est un peu sur la sellette dans ce pacte nickel.
Pendant tout le temps, la province Nord était présente dans toutes ces discussions-là. On l'a fait en toute intelligence avec les représentants de la province. Les discussions sont les discussions. Hein. Un coup, on n'est pas d'accord. Un coup, on s'engueule. Mais on continue.
Et en tout cas,
les représentants de la province Nord, comme ceux de la province Sud, du gouvernement... Et SLN, Prony et Cognon et KNS, ils étaient là depuis le début jusqu'à la fin.
Il va être signé le 25 mars?
C'est l'objectif.
Est-ce que ça va permettre de sauver la filière nickel? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, notamment de la situation de KNS? C'est ce qui interpelle le plus parce qu'elle est mise en sommeil, parce que Glencore a annoncé son retrait. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? Est-ce que vous suivez la recherche de repreneurs et est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir un?
Je pense que le travail...
Je ne demande pas les choses confidentielles, vous ne me les direz pas, je sais.
Mais je ne vous dirai pas plus.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
On est optimiste parce que on a, sur KNS, on a affaire, on l'a remarqué depuis le début, hein, on a affaire à des vrais professionnels, quoi. On a affaire à des vrais professionnels et on sait qu'aujourd'hui, qu'ils se bougent, quoi. Et on le sent dans leurs propos, ils sont fiers de leur outil de travail qu'ils veulent préserver, ils sont fiers de leur outil de travail, ils veulent absolument relancer les choses et ils sont sur le dossier, quoi. Voilà.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'usine du Nord, c'est plus qu'un symbole, a été mise en œuvre par l'Union calédonienne d'ailleurs, on peut le rappeler au passage. comment on en est arrivé à cette situation où l'usine est en sommeil, on parle d'une éventuelle fermeture?
Non, mais je pense qu'il faut qu'on soit lucide, quoi. Je veux dire, la lutte, elle est mondiale. Hein. Et très clairement, le duo sino-indonésien, les Chinois et les Indonésiens, je pense qu'ils ont décidé de tuer la concurrence mondiale. Hein. Ça se sent bien. Parce que les cours à la fois du nickel, du minerai a baissé, le cours du nickel métal aussi a baissé. La question est de savoir jusqu'à quand ils vont tenir aussi bas. Et je crois que en termes d'économie, on peut baisser les prix pour tuer les autres, mais ça tient pas très longtemps, ça. Voilà. Donc on a ce constat-là qui, on voit bien que c'est une stratégie de la part de la Chine et de l'Indonésie. La question, c'est combien de temps ça va durer. Les analystes indiquent depuis un moment que les cours devraient remonter à l'horizon 2027-2028. Donc le pacte nickel de départ, c'est sur ça, c'est sur cet objectif-là qu'on s'était fixé. Il s'agissait d'aider les trois entités pendant 3 ans, 4 ans, parce que les cours allaient remonter. La consommation mondiale de nickel devrait remonter.
Et donc il faut tenir jusque-là.
Il faut tenir jusque-là.
Alors certains...
Et tenir jusque-là, ça veut dire solidarité entre l'ensemble des Calédoniens et avec nos entités métallurgiques.
Alors certains observateurs et acteurs même du secteur du nickel disent qu'en fait la Nouvelle-Calédonie ne devrait plus faire que de l'exportation, que c'est un territoire minier, pas un territoire métallurgique. C'est notamment des propos rapidement contenus qu'a tenu Christel Bory.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Ils ont raison, c'est ça l'avenir pour la Calédonie?
Moi je vais simplement dire qu'à l'époque, quand nous demandions la construction d'une seconde usine dans le Nord, les mêmes responsables des Ramet disaient il n'y a pas la place pour deux usines en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on en a moins de trois.
Oui, mais aucune n'est rentable.
Nous, on ne rentre pas du tout dans cette vision des Ramet. Je crois que la chance du nickel calédonien, c'est sa qualité. Et deux, c'est la manière dont on produit le nickel. Nous sommes les seuls pays au monde qui produisons avec des normes respectueuses de l'environnement, respectueuses des femmes et des hommes qui travaillent dans la mine. On parle d'un nickel vert. Et c'est peut-être là la voie d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Faire valoriser cette qualité et valoriser le nickel vert. Et je pense que de ce côté-là, c'est un peu l'orientation qu'a donné le ministre Le Maire en disant que le nickel calédonien pourrait servir à l'industrie automobile européenne, voire française. Et la voie est peut-être dans ce couloir-là. Ça bouge côté nickel, ça bouge beaucoup. Et nos voisins australiens, par exemple, empruntent cette voie-là. Je sais que la ministre des Ressources de l'Australie, Mme King, part ces jours-ci vers les États-Unis, vers le Canada, pour promouvoir le nickel vert australien. Donc vous voyez, c'est vrai qu'avec la puissance chinoise et les ressources indonésiennes, de temps en temps celles des Philippines, on est mis à mal, nous, Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Je veux dire, quand on est dans cette économie concurrentielle cyclique, il faut se battre tout le temps. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir qu'on ait à l'esprit. Peut-être va falloir que nous tournions la page d'un modèle économique, d'un système qui a fonctionné et qui aujourd'hui mérite d'être revu au regard des nouveaux enjeux.
Parmi les problèmes, celui du prix de l'énergie, on l'a dit mille fois.
Bien sûr, bien sûr.
L'aide de l'État, elle est fondamentale, elle est capitale dans ce domaine, vous en réjouissez?
L'aide de l'État et, pardon, de la Nouvelle-Calédonie, dont le pacte nickel, donc on parlait tout à l'heure.
Oui, mais c'est pas la même mesure. Emmanuel Macron avait dit il y a que l'État qui puisse assumer le prix de la transition énergétique.
Ça c'est sur l'investissement, Elisabeth. Oui. Ça c'est sûr que sur l'investissement, c'est tellement important que le président Macron l'a indiqué comme ça, et il n'y a que l'État qui peut faire. Mais sur la subvention à l'énergie, excusez, mais le seul chiffre qui est mentionné sur le pacte nickel, c'est les 8 milliards que doit apporter la Nouvelle-Calédonie. Hein. Et donc ça, c'est pour aider, c'est une subvention en quelque sorte qu'on devrait allouer aux trois métallurgiques pour baisser un peu le coût de l'énergie, bien sûr.
Mais même en étant indépendantiste, vous réjouissez que l'État soit là, au chevet des usines de l'industrie métallurgique calédonienne ?
Pourquoi la question ? C'est pas parce qu'on est indépendantiste que on s'enferme dans notre...
Vous parlez d'un État partial, d'un État... Là, il aide quand même.
Mais parce que c'est son rôle. Mais c'est son rôle. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, c'est le rôle d'un État. Un État, c'est ça sauvegarde, un État, ça protège. C'est la France aujourd'hui, c'est son rôle. Si c'était un autre État à la place de la France, ce serait pareil. Mais la question d'indépendance n'est pas liée à ça. Elle est liée, seulement nous, notre combat, c'est la décolonisation de notre pays. Voilà.
On parlait rapidement économie tout à l'heure avec la TGC. Vous le savez, l'économie est dans un état. En tout cas, le climat est plus que morose. Il y a eu plusieurs prises de position. Les chefs d'entreprise s'inquiètent. Le collectif Agissons Solidaire a même posé un ultimatum au gouvernement en lui donnant jusqu'à ce vendredi pour renoncer à tous ces nouveaux projets de taxation. Vos collègues loyalistes et Rassemblement demandent l'instauration d'un état d'urgence économique et sociale. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes inquiet de la situation de l'économie calédonienne ? Vous pensez qu'il y a des solutions à apporter ? Il y a un plan d'urgence à mettre en place ? Un plan de relance ?
En tout cas, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'instar de ce qu'on avait fait pendant la crise sanitaire, la crise Covid, là on est en face d'une crise économique, nous avons mis en place une cellule de crise au gouvernement. Cellule de crise travaille toutes les semaines. On a mis en place des groupes de travail dans lesquels figurent ceux de l'Action solidaire, le MEDEF y est, et on continue à travailler. Tout ça pour dire que la situation a bien été prise en compte par le gouvernement. La situation s'est aggravée avec la situation ce qui se passe sur les trois usines. Mais les difficultés, je vais dire peut-être un terme qui va choquer, mais elles sont là depuis longtemps. Les difficultés, elles sont là depuis longtemps. Sauf qu'on a fermé les yeux. Le budget de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, depuis 2016, elle a été bouclée, elle a été équilibrée de manière artificielle. En 2016, déjà, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait appel à l'Office des Postes pour subventionner le budget de la Nouvelle-Calédonie. Et on a été chercher à l'OPT. Après, on a été chercher au Fonds Nickel. Après, on a été chercher au Port Autonome pour équilibrer le budget de la Nouvelle-Calédonie. Mais pendant ce temps-là, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour réformer. C'est la crise Covid qui est venue de manière, brutale, mettre en lumière les difficultés du pays. On n'a pas pu boucler le budget, il a fallu faire appel à l'aide de l'État. On a fait appel à l'aide de l'État parce qu'on était incapable de bouger le budget, de boucler le budget. Donc la situation, elle est là depuis longtemps. C'est pour ça que je dis, le gouvernement Mapo, on s'acharne à essayer de régler des dossiers anciens. La CLR, les difficultés de la CLR, comme les solutions pour régler la CLR, elles sont connues depuis longtemps, sauf qu'on ne le fait pas. C'est le travail que fait Vaïmoa Mouliava aujourd'hui, d'essayer de régler les problèmes de la CLR. Sur le Ruyam, c'est pareil. Sur Enercal, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe sur Enercal ? On a dit... Enercal, il ne faut surtout pas monter le prix de l'électricité pour les consommateurs. Enercal dit quoi ? Ok, je ne monte pas, mais je veux une compensation annuelle par rapport au prix du gasoil et prix. Sauf que cette compensation-là, la dernière fois qu'elle était versée, de mémoire, je pense que c'est le budget 2012. Et on a traîné les choses. Donc nous étions en train d'essayer de nous acharner à régler ces problèmes anciens et arrive, pouf, la difficulté des usines. Donc qu'on ne nous dise pas qu'on n'est pas au courant des choses. Mais par contre...
On ne vous dit pas que vous n'êtes pas au courant, on vous dit comment vous les réglez maintenant.
Il manque quelque chose en Nouvelle-Calédonie. Il manque la solidarité de tous. Parce qu'on n'arrive pas à avancer, et on arrivera de plus en plus du mal à avancer. Vous parlez d'action solidaire, là. Parce qu'il y a quelque chose qui se profile au mois de décembre. Les élections de décembre. Et on va commencer à avoir les uns qui vont faire de la surenchère. Certains qui vont poser des ultimatums. C'est ce qui se passe. Certains qui vont faire de l'opportunisme. Voilà, c'est le jeu, il est clair pour nous.
Dans tous les camps.
Nous, on fait pas de, on ne s'amuse pas. Nous, on ne s'amuse pas. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que à l'Union calédonienne, nous avons la chance d'avoir une façon de travailler où, pour être représentant du peuple, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de faire du cinéma, on n'a pas besoin d'aide des entreprises. On a un fonctionnement qui fait que les élus de l'Union calédonienne sont assez indépendants. Voilà, sont assez indépendants. Donc voilà, nous, on sait les difficultés dans lesquelles le pays est aujourd'hui. Nous essayons de régler les choses de manière responsable, mais on ne se laisse pas influencer par les lobbies. On ne se laisse pas entraîner dans du favoritisme, privilégier un tel plutôt qu'un tel. Non, ce n'est pas ça notre truc.
En attendant, solidarité ou pas, les Calédoniens sont inquiets, vous le savez, vous le sentez bien. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant selon vous, la situation économique et sociale ou la situation politique et la recherche d'un accord? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui?
Les deux sont à prendre en compte de manière globale, quoi. Je veux dire, pour moi, pour nous, à l'Union calédonienne, c'est comme ça que les choses se discutent. Il n'est pas question de régler l'avenir de la Nouvelle-Calédonie si on laisse les difficultés des Calédoniens comme ça, sans s'occuper de ça. Donc ce sont deux dossiers qu'il faut gérer de manière simultanée. Et la sortie, on sort avec ces deux choses ensemble. C'est comme ça qu'on l'a dit depuis le départ.
Beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers. La fin de ce magazine Transparence, merci Gilbert Thuyenon d'avoir été présent dans notre studio.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
La fin de ce magazine qui sera rediffusé, je le rappelle, dimanche soir, juste après notre édition de 16h45, et que vous pourrez retrouver dans un instant en audio sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellent après-midi à tous.